Au siècle dernier,
nous avons asséché la moitié
des marais du monde.
Ces marais sont des éponges indispensables
à la régénération de l'eau
et à sa purification.
Club bizarre.
C'est bizarre.
Club bizarre.
Le magazine L'Hebdo abordait dans son numéro 42 du 20 octobre 2011 un bien drôle de sujet. En gros titre sur la couverture, médium, roman, qui sont-ils ? Voilà une question qui vous a, vous, gens bizarres et curieux, peut-être donné l'envie de compulser ce dossier sur le spiritisme dans lequel on apprend, page 38, que la réalisatrice Denise Gillian et le journaliste et animateur à la radio suisse romande Alain Maillard sont sur le point de sortir au cinéma un documentaire sur ce sujet à la fois passionnant et controversé, la médium. Club Bizarre vous propose ce dimanche, mais aussi le prochain, de vous rapprocher du monde de l'invisible, de la question de la vie après la mort, avec une immersion dans les coulisses du documentaire Médium, d'un monde à l'autre. Dans quelques minutes, rencontre avec Denise Gillian, qui s'est pleinement investie pendant 2 ans et demi dans la préparation de ce film et d'un livre dont nous reparlerons tout à l'heure. À la réalisation de cette émission, un homme qui dialogue avec les mots plus que les morts, Franck Pourpri. On ne vous demande pas de croire, mais simplement d'écouter. Bienvenue dans Club Bizarre. You guessing it's me, you guessed correctly. I just stay with a stallion. You would swear I was an equestrian. I'm a hitter with that pipe, call that Nancy Kerrigan. Stay on the greenest greens, call us vegetarians. You be on that minor league, but we smoke professionally. I do my job exceptionally, on point like a decimalist. The way I ride on a beat, man, I beat up the street. It's done so effortlessly, yeah. So these niggas can't sleep on me. There's no inception in this, bitch. I'm top chef, you top rum, and I'm top shelf. No last call, tell the bartender what you got left. Pour it up, don't stop there. Hold your cup, take a shot, yeah. All night we celebrate, cause we everywhere and you not there. Ha. All we do is pour it up, all night drinks out.
That's all we do. That's all we do.
And all we do is light it up all night. All you see is strange clouds.
Strange clouds.
Strange clouds.
Yeah.
Blue jeans, I'm faded. Minding my own data. Smoking on that strong. That Arnold Schwarzenegger. It's totally you, bitch, you. You hot as an igloo. Kick back on that Glock. Call that jujitsu. Hello world, I'm with a yellow girl. Number 2 pencil. These rappers is washed up. Spin cycle. Rinse you, my nigga. All day, all night. Half pipe. I dive in that pussy. Yeah, I belly flop. I jackknife and shit. Tell my homies that I say it's a party. Yeah, got that tech for technical difficulties. I'm top dog, you top rhyming, I'm top dog. Pyru, gangsters, outlaws.
All we do is pour it up, all night drink sound.
Young rule, I'm baby.
And all we do is light it up all night. All you see is strange clouds. Strange clouds. All we do is pour it up all night drink sound. And all we do is light it up all night. All you see is strange clouds. Strange clouds.
Bizarre.
Le médium, en fait, c'est tout simple. Il fait la connexion entre le monde des vivants et le monde des esprits. Donc, il est entre les deux mondes.
D'après la journaliste du magazine L'Hebdo, Isabelle Falconier, auteure d'un dossier de plusieurs pages sur la médiumnité, 30% des romans considèrent le spiritisme comme vraisemblable. Ce sondage a été réalisé en 2009 par la Nouvelle Suisse religieuse. 30%, ce n'est pas rien. C'est presque un tiers de la population. Ce qui veut dire qu'une personne sur 3 en roman 10 s'interroge sérieusement sur des thèmes comme la mort, l'âme, la spiritualité et la conscience.
Je les ai vus travailler et on ne peut pas nier la réalité des contacts.
Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, rencontre avec Denise Gillian, dont le film Médium d'un monde à l'autre sera projeté en première mondiale le mercredi 2 novembre à 20h au City Club de Puy, en présence de l'équipe et de Médium. Avant d'explorer les motivations qui ont poussé Denise à se rapprocher de l'invisible et des grands mystères du spiritisme, elle nous raconte ses débuts dans le monde du cinéma.
Maintenant, sois attentif un moment. Écoute les bruits qu'il y a tout autour de toi. Maintenant, imagine que tu es dans une salle. Dans une salle de cinéma.
Alors, tout a commencé au Mexique, dans les années 80, où j'avais quoi ? J'avais 17 ans. À l'époque, j'étais en train de voyager. Je me suis retrouvée sur des plateaux de télévision pour filmer des publicités. Et là, j'ai découvert le métier de réalisateur. Et depuis toujours, moi, j'écrivais, je dessinais. J'avais un amour de la liberté incommensurable. Et je ne savais pas quelle profession choisir. Et quand j'ai vu les réalisateurs travailler, je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce métier, parce qu'ils font tout ce que j'aime. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Donc je ne suis pas une cinéphile au départ, c'est plus un mode de vie qui m'a séduit. Et j'étais passionnée également de Jung, avec toutes ses considérations sur l'inconscient collectif. Et je portais vraiment cette question du rêve en moi. Une des questions, c'était, est-ce qu'il y a des images au cinéma qui peuvent représenter quelque chose d'inconscient qui engendrerait une émotion chez tout le monde de la même façon. Et porteuse de cette question-là, je me suis dit, mais le cinéma, c'est juste absolument génial pour explorer cette dimension de l'humain.
On poursuit ton parcours, cette fois-ci dans les années 2000. En 2002, nouveau documentaire pour toi, un documentaire qui sera diffusé d'ailleurs à la télé dans l'émission Temps Présent. C'est NDE aux frontières de la mort. Comment as-tu, toi, appris l'existence de ces expériences aux frontières de la mort? Parce que les NDE, c'est quelque chose de beaucoup plus rare, peut-être de plus tabou aussi.
Alors, aussi loin que je me souvienne, la mort m'a intéressée depuis toute petite. Non pas d'une façon sordide, c'était pas la peur des fantômes, hein, qu'on s'entende bien, c'était plus le côté sens de la vie, existentiel de la question. Donc j'ai l'impression d'avoir grandi avec ça, d'avoir toujours été habitée par ça. Donc à quel moment j'ai eu conscience des NDE, c'est très difficile de répondre. Je pense que, comme beaucoup de gens, c'était à travers le bouquin de Maudit, La vie après la vie, que j'ai dû lire, je sais pas, à 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, Alain Maillard, avec lequel je collabore sur le film Medium aussi, s'est intéressé pour un livre aux expériences de mort imminente. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à approfondir aussi ma recherche. Et puis le désir du film est né en parallèle à cette création de livre, au fond.
Novembre 2011, soit 9 ans plus tard, après ce premier documentaire sur les expériences de mort imminente, tu sors donc Medium, d'un monde à l'autre. Avant la préparation de ce documentaire, qu'est-ce que tu connaissais, toi, de la médiumnité? Est-ce que tu avais, par exemple, consulté déjà un médium?
Bon, chez moi, tout se mélange un peu. Quand un sujet m'intéresse, je l'expérimente pour moi-même, de façon privée, mais toujours avec la conscience que peut-être un jour, ça va déboucher sur un film, un livre, ou que sais-je. Je dirais, j'ai pas des catégories comme ça, des petits secteurs tellement formatés. Donc, je savais pas. D'abord, c'était un questionnement tout à fait privé. Et c'est d'une façon privée que j'ai pris une consultation, une première consultation en 2006. Alors j'avais pas l'espoir de rencontrer un défunt plutôt qu'un autre, c'était vraiment une expérimentation plus large. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette médiumnité? Est-ce qu'effectivement les médiums arriveraient à me donner la certitude d'une vie après la mort? Comment ça se passe? Et voilà, puis après bah, j'en ai vu plein, évidemment. Et puis plus j'avançais dans le désir de réaliser un film, plus le champ des recherches est devenu large.
Pourquoi cette boulimie par rapport au médium? Tu dis que tu en as vu plein, c'était pour les tester, parce que tu étais resté plutôt sceptique après cette première rencontre avec un médium en 2006.
Alors pas du tout, j'étais pas du tout sceptique. Au contraire, comme la séance avait été extrêmement intéressante, ça avait ouvert un abîme de questions. Alors de nouveau, il faut quand je dis que j'en ai vu plein, j'en ai pas vu plein en consultation privée pour moi. Hein. Je me suis mise à aller dans des classes, à faire du collectif aussi. C'est pour ça qu'il y en avait plein. Maintenant, les questions qui se posent par rapport à la médiumnité, elles sont sans fin, parce que vous avez le problème de la délocalisation de la conscience, de la survie, de notre propre survie, finalement, après la mort. Mais il y a aussi tout un tas de questions qui me passionnent sur la provenance des informations. Parce que les médiums, quand même, arrivent toujours à nous donner des informations très, très très précises qu'ils ne peuvent pas avoir par des recherches internet, à partir de notre look, à partir de ce qu'ils perçoivent, de ce qu'on émet devant eux au moment de la consultation. Je prends un exemple très précis. Ils arrivent parfois à nous dire, je sais pas, ce que mangeait notre grand-mère, dans quelle maison elle habitait, combien elle a eu d'enfants et comment elle est décédée. Donc, amener du factuel comme ça, où indéniablement, ils vont puiser des informations dans un monde, point d'interrogation. Lequel ? Alors, est-ce qu'il s'agit de télépathie ? Est-ce qu'ils vont puiser de l'information dans une bibliothèque akashique, dans le fameux inconscient collectif selon Jung ? Ou est-ce qu'effectivement, ils ont affaire à des défunts ? Alors, je dirais, le questionnement qui m'a beaucoup habité et qui m'a rendu boulimique, pour reprendre ton terme, est plutôt celui-là.
Y a-t-il une vie après la mort ? C'est la question essentielle que pose la médiumnité et qui nous concerne tous. La science n'a pas les outils pour y répondre. Et les religions n'ont pas les moyens de le prouver.
Club bizarre.
Couleur 3.
Lipstick, junkie, debunk, the only one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go.
Il y a plein de sortes d'utilisation de cette médiumnité. Mais la médiumnité est toujours la même chose. C'est le travail de la communication entre le monde des esprits et le monde des vivants.
Les médiums affirment que les morts vivent dans un autre monde. Pour certains, cela relève de la croyance. Pour d'autres, ce sont des foutaises. Et pour une autre catégorie de personnes, parler avec les morts est une réalité. Mais comment est-ce possible ? Comment les médiums apprennent-ils à communiquer et à transmettre des messages du monde de l'invisible ?
Death is not an end, but a change. we attempt to provide evidence to support that belief.
C'est avec ces questions en tête que la réalisatrice Denise Gillian a enquêté pendant presque 3 ans sur le petit monde du spiritisme roman. Son envie, faire un documentaire sur un sujet encore tabou dans nos sociétés, mais qui ne cesse de revenir dans des livres, des discussions, des fictions, des émissions de radio et de télé. Hier, ce documentaire était un projet. Aujourd'hui, c'est une réalité. Sorti officiel au cinéma du film « Médium d'un monde à l'autre » le 1er novembre 2011. Mais pourquoi ce titre « Médium d'un monde à l'autre » ?
Parce que les médiums se définissent comme des ponts, des liens, des communicateurs entre un monde et un autre.
Denise Gillian.
Entre le monde incarné et vivant et le monde désincarné, des esprits, des défunts. Donc c'est bien une transmission d'informations ou d'énergie d'un monde à l'autre.
Pour ce documentaire, tu as à nouveau travaillé avec Alain Maillard.
Alors, la collaboration avec Alain Maillard est passionnante dans la mesure où on se complète vraiment. Alain Maillard est donc un journaliste, politique d'abord, maintenant animateur à la ligne de cœur, mais il a toujours eu cette démarche d'une quête d'objectivité, une distance analytique et journalistique aux choses. Il croit à l'objectivité, je n'y crois pas une seule seconde. Et c'est là qu'on est complémentaires et que le travail et la collaboration est passionnante. Moi, je suis quelqu'un qui pense qu'à partir du moment où on pose une question ou qu'on pose sa caméra quelque part, on induit forcément un point de vue, qu'on le veuille ou non. Pour moi, l'objectivité n'existe pas. Donc, je dirais collaborer avec quelqu'un qui tend toujours à ramener le questionnement à l'objectivité, c'est absolument passionnant, quoi. Et on est très, très complémentaires. Je suis quelqu'un aussi qui va sur le terrain, qui expérimente, comme on le disait tout à l'heure. Je vais prendre des séances chez les médiums, je vais expérimenter tout ce que je peux. Alain est quelqu'un qui se forge plutôt un avis à partir de lectures, à partir d'interviews, d'enquêtes. Donc, je dirais, moi, je vais expérimenter et puis lui, ensuite, amène une distance, comme ça, plus analytique.
Il y a eu besoin de le convaincre pour participer à un documentaire sur la médiumnité ?
Ah non, j'ai pas eu à le convaincre une seule seconde. Non, c'est ces créations qui naissent d'un élan commun. Donc non, on a plusieurs à travailler ensemble et voilà, les projets naissent très naturellement.
Et je suis en train de rédiger une annonce pour demander à des gens qui ne croient pas en la vie après la mort de venir prendre une consultation gratuitement parce que je trouve que c'est un challenge de pouvoir montrer qu'il y a cette vie après la mort. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir montrer, démontrer. J'ai vraiment envie d'essayer de prouver ça, parce que j'aimerais que tout le monde puisse en bénéficier.
Dans ton documentaire, Denise, tu nous permets de faire plus ample connaissance avec une médium qui vit à Martigny, dans le Valais, Céline Boson-Sommer. Des médiums, il y en a un certain nombre, c'est vrai, en Suisse romande. Pourquoi avoir choisi Céline ?
Donc voilà, le choix de Céline, parce que elle a l'immense qualité de pouvoir vulgariser très bien un domaine qui est très difficile, hein, à relater, l'invisible, l'immatériel, c'est pas tout simple de mettre des mots dessus, elle le fait bien. Et puis, c'était très important pour moi de trouver une médium qui accepte d'être mise au défi, de donner des consultations de médiumnité devant la caméra, les yeux bandés, à des gens qui n'y croient pas, c'est un sacré challenge quand même. Pas n'importe qui accepterait de le faire, surtout que le deal, le contrat passé avec la médium, c'était quel que soit l'aboutissement, le résultat de ce qui est filmé, je sors le film. Si tout avait foiré, si ça avait vraiment très très mal marché, quitte même à nuire à son image de marque, le deal, c'était que moi, le film, je devais le sortir de toute façon. Alors évidemment, tout ça dans le respect le plus total de la personne, hein, mais pas n'importe quel médium aurait dit oui à ça. Autre chose qui est très importante pour moi, c'est l'éthique. On a affaire quand même, quand on parle à la médiumnité, à une espèce d'amalgame facile avec les charlatans, avec la voyance. Et puis là, il y a tout un marché comme ça commercial qui est dangereux.
Cette personne, elle était enveloppante, et pour moi, elle était enveloppante comme une maman. Et si ce n'était pas votre maman, parce que je n'ai pas encore l'information si c'est votre maman ou pas, si ce n'était pas une maman, c'est une personne qui avait des attitudes de maman avec vous. Ok ? Et elle est certainement partie au moment où c'est que vous étiez... Je ne sais pas si vous êtes adolescent ou jeune adulte, mais entre.
Donc pour moi, c'était très important dans le film de choisir des gens qui ont une éthique de travail qui ne se permettraient pas d'induire de la peur, par exemple, ou d'induire une dépendance, ou d'induire, en faisant des prédictions d'avenir, quelque chose qui puisse vraiment nuire à la personne. Donc Céline a cette qualité-là, peut-être parce qu'une de ses formations, c'est maître socio-professionnel. Elle a bossé longtemps dans le social, ce qui lui donne cette espèce de respect de l'humain, comme ça, en profondeur, je dirais presque avant son aptitude à la médiumnité.
Avant de rencontrer Céline, si c'est pas indiscret, combien de médiums as-tu rencontré? Combien ont refusé de participer à ton documentaire, justement parce qu'il y avait ce challenge?
Alors, des médiums, je pense, j'ai dû en rencontrer une bonne cinquantaine. Mais de nouveau, ça veut pas dire que moi, j'ai pris des consultations individuelles. Pas du tout, hein, mais il existe des démonstrations publiques de médiumnité, il existe des écoles de médiumnité, etc., où on en rencontre 20, 30 d'un coup. Alors, personne n'a refusé de participer au documentaire, parce qu'à partir du moment où j'ai choisi Céline, j'ai convaincu Céline. Il n'y a pas eu d'autres choix au préalable.
D'accord, il n'y a pas eu un casting, comme on dit.
C'est pas du tout un choix de deuxième main, c'est un choix de première main. Voilà, c'est vraiment Céline que je voulais.
Elle a envie que vous viviez, elle veut plus que vous arrêtiez de vivre comme ça. Elle devait partir, mais c'est pas pour ça que vous devez vous arrêter de vivre.
Tu l'as rencontrée comment, Céline?
Alors, une amie commune m'avait donné son numéro de téléphone, mais bien avant que l'idée du film n'émerge, en disant « Tu devrais la voir, c'est une médium exceptionnelle. Si une fois tu as besoin d'une médium, je te la recommande. » Et puis j'ai eu ce numéro de téléphone, je pourrais une année, deux ans, comme ça, je n'ai pas besoin à ce moment-là de voir une médium. Et puis à un moment donné, ben voilà, le désir s'est fait plus pressant, puis j'ai pris rendez-vous. Puis en fait, la première rencontre, c'était justement une séance de médiumnité privée. Avec elle. Et puis ensuite, ben, en explorant le domaine, ils ne sont pas non plus 150 000 en Suisse romande à exercer. Donc à partir du moment où j'ai commencé à avoir l'idée du film, etc., assez vite, Céline faisait partie du paysage des possibles, je dirais. Mais j'ai mis bien une année avant de décider que ce serait elle et pas quelqu'un d'autre.
Club bizarre.
Quand j'étais petite, cette capacité médiumnique que je ne connaissais pas encore comme étant une capacité médiumnique m'a beaucoup déstabilisée. Je me trouvais un petit peu étrange par rapport à mes petits copains, mes petites copines. Je voyais la vie différemment, je crois, surtout.
Dans la plupart des cultures, les médiums, les chamans, les guérisseurs jouent un rôle important. Mais dans nos sociétés où la science fait loi, ils dérangent. On préfère les traiter de charlatans.
C'est il y a 10 ans que le journaliste Alain Maillard et la réalisatrice Denise Gillian se sont intéressés à un grand tabou de nos sociétés, la mort. Plutôt que de proposer une enquête morbide dans les morgues et les cimetières, le duo a opté pour un choix radical. Parler des expériences de mort imminente et laisser la parole à ces gens qui sont passés par un tunnel, à ces gens qui sont sortis de leur corps pour entrer en contact avec une autre réalité. 1er novembre 2011, Denise et Alain souhaitent à nouveau vous faire part de leurs connaissances et de leurs doutes sur la vie après la mort, avec un nouveau film, Médium d'un monde à l'autre.
Je dirais que c'est un documentaire qui permet à une réalité d'émerger à travers une mise en place d'un processus.
Denise Gillian.
Donc là, on rejoint cette fameuse frontière entre la fiction et le documentaire, même si c'est un documentaire pur et tout ce qui est filmé est bien réel. Le processus, lui, au départ, est complètement mis en scène. On passe une petite annonce dans un journal local qui dit qu'on recherche des gens qui n'y croient pas et qu'on leur offre une séance de médiumnité. Donc le processus est en fait une impulsion à provoquer du réel. Donc ça n'est pas une immersion au sens où on l'entend dans le cinéma du réel, mais c'est pas non plus un magazine de télévision sous forme d'enquête journalistique. Je mets en place un processus pour faire émerger du réel, pour donner à sentir, à observer ce qu'est la médiumnité à travers un portrait, à travers la pratique d'une médium avant tout.
C'est par refus de la mort que l'homme a inventé une vie après la mort. Et de mon point de vue, c'est une énorme lâcheté.
Est-ce qu'il y a encore vraiment du réel quand on écrit un scénario à l'avance, qu'il y a un contrat moral, peut-être un protocole passé justement avec Céline? Qu'est-ce qui reste de la réalité en fait dans ce cas-là?
Alors là, il faut bien comprendre que le processus est écrit. Par exemple, dans les séances de médiumnité filmées, justement, avec les gens qui n'y croient pas, ce qui est écrit et prévu, c'est qu'on passe une petite annonce dans la presse pour trouver ces gens qui seront d'accord de recevoir une séance. Le contrat passé avec Céline, c'est de dire « Tu vas donner une séance sans rien savoir de ces gens, les yeux bandés devant la caméra. » Au moment du tournage, Céline est isolée dans une pièce. La personne qui va recevoir la séance est isolée dans une autre pièce. Ils ne se voient pas, ils ne se rencontrent pas. Je pose 2-3 questions préalables à la personne sceptique qui va recevoir la séance. Pendant ce temps, Céline se prépare à donner la séance de médiumnité. Elle fait ses méditations, etc. La caméra s'enclenche, en fait, dans la salle où se trouve Céline, avant la rencontre. Et on tourne non-stop toute la séance de médiumnité pendant 45 minutes. Donc là, c'est de l'immersion, c'est du réel. À partir du moment, en fait, où on dépasse le processus pour entrer dans ce qu'est la séance de médiumnité, c'est vraiment... il n'y a plus aucune mise en scène, il n'y a plus aucune écriture, là. Donc c'est vraiment la partie préalable, finalement, qui est écrite, mais pas le reste.
Je ne sais pas comment elle fait, elle ferme les yeux, puis ben, elle arrive à... Elle demande la date de naissance, le numéro de téléphone et le nom, puis... Elle arrive, je ne sais pas comment elle le fait, mais elle arrive à guérir.
Céline relève plusieurs challenges dans ce documentaire. Toi, tu en as eu aussi dans la préparation de ce film. Tout d'abord, trouver la bonne personne. Et puis, l'autre grand challenge pour toi, Denise, c'était quand même de filmer l'invisible, le rendre vivant. Comment on fait ?
Alors, la limite que je m'étais posée est justement celle-ci, c'est qu'à aucun moment j'ai voulu rendre visible l'invisible. Ça, c'est vraiment une limite. Je n'aime pas les films où on met en scène l'au-delà. Et... Non, je pense que l'invisible doit le rester. Aussi parce qu'on y va chacun de son imagination, de sa capacité en fait à visualiser ou pas. Il y a des gens qui sont sensitifs ou auditifs. Je ne vais pas leur imposer des images comme ça d'un au-delà. En plus, je pense que c'est complètement impossible à illustrer. Donc, il n'y a pas du tout de volonté de ma part d'illustrer l'au-delà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé beaucoup l'eau, qui est un élément que j'aime. L'eau, l'air. Pour moi, entre les mondes, ce voyage que font les médiums entre un monde et un autre était très joliment illustré à travers cette frontière entre l'eau du lac et le ciel. Donc dans mon film, il y a beaucoup de jeux avec ces éléments-là, en fait, qui sont plus symboliques qu'autre chose.
C'est difficile de parler de l'amour de mon père, parce que... Parce qu'en fait, il est mort seul. Et ça, c'est quelque chose que... C'est pas un regret que j'avais. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. Mais là, c'était quelque chose qui... Je me dis, ah, j'ai loupé quelque chose. C'est dommage. Et c'est comme si Céline est arrivée à ce moment-là, où j'avais pas ça en tête, parce que ça faisait déjà quelques années qu'il était mort. J'avais plus ça en tête, je vivais très bien avec ça. Et tout d'un coup, il y a tout qui ressort.
Dans ton documentaire, il y a des personnes donc qui sont assises en face de Céline. On apprend que ce sont des personnes qui ont répondu donc à une petite annonce dans un journal. Combien de personnes ont répondu à cette annonce ? Venez tester gratuitement un médium si vous ne croyez pas en la vie après la mort.
Alors pas beaucoup, il y en a eu 9. Il faut dire que c'était très exigeant, parce que dans l'annonce, on demandait des gens qui n'y croient pas, et en plus on demandait qu'ils soient d'accord d'être filmés. Donc quelle motivation un sceptique peut bien avoir à aller recevoir une séance d'un truc auquel il ne croit pas une seule seconde, tout ça pour en plus être filmé. Donc soit on a affaire à des gens complètement exhibitionnistes, et heureusement il n'y en a pas eu un seul, ou alors il fallait quand même qu'il y ait une motivation chez les gens qui répondent, une espèce comme une arrière-pensée, disant « oui mais quand même j'aimerais bien que ça marche ». Et je crois que chez les personnes qui ont répondu, il y avait ça comme point commun. C'est qu'ils n'y croient pas. Intellectuellement, ils ont beaucoup de mal à trouver un seul argument en faveur de la médiumnité. Mais au fond, il y avait chaque fois une douleur, un deuil, quelque chose qui faisait qu'ils auraient bien voulu quand même qu'on leur prouve la vie après la mort.
Je ne peux pas croire qu'il y ait des esprits hors de notre cerveau ou que l'esprit ou l'âme soit une entité ou un organe en soi-même. C'est vrai que je ne crois pas en la médiumnité.
Bisous.
Life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home. Yeah, yeah. Safely back where you belong, and see how a love has grown.
Est-ce que vous êtes prête?
Je vois des choses. Je sais que c'est comme si vous avez résolu le cas des bonnes pommettes. Il n'est pas seul.
C'est vrai.
Pendant presque 3 ans, Denise s'est immergée dans le but de faire un documentaire sur le sujet, dans le monde étrange et fascinant de la médiumnité. Elle a suivi et filmé pendant plusieurs mois la médium et guérisseuse valaisanne Céline Bauzon-Sommer. Elle l'a testée, interviewée, suivie en France et en Angleterre.
Ça, comment vous avez fait? Je ne sais pas.
Moi, de toute façon, mes informations, je ne peux les recevoir que du monde spirituel, dans ce moment-là.
En plus, vous avez vu, j'ai les yeux bandés. Je vous tiens par la main. Comme ça, on est sûr vraiment que j'ai pas d'informations d'ailleurs. Parce que c'est un peu le but hein, de cet exercice.
De cette folle aventure, il reste à la réalisatrice beaucoup de souvenirs. Et des heures d'enregistrement. J'ai demandé à Denise Gillian ce qu'elle a volontairement laissé dans son film « Médium d'un monde à l'autre » et ce qu'elle a volontairement coupé au montage.
Alors j'avais toute une part qui traitait à la médiumnité physique. Par médiumnité physique, on entend par exemple les planches Ouija, où on a les lettres de l'alphabet écrites sur un plateau, et puis un objet qui est bougé par l'énergie des médiums, puis qui va montrer des lettres sur le plateau jusqu'à former des phrases et du contenu très très précis. Donc ça par exemple c'était une scène qui était extrêmement intéressante mais que j'ai délibérément choisi avec la personne qui opérait à ce moment-là d'enlever parce qu'on n'arrivait pas à lier médiumnité physique et médiumnité mentale. La médiumnité physique venait comme annuler finalement tout ce qui était plus de l'ordre de l'humain, du subjectif, du relationnel. Et puis dès qu'on a affaire à des images physiques, on en revient au questionnement sur comment montrer l'invisible. Dès qu'on a affaire à la médiumnité physique, j'ai filmé aussi des tables qui grimpent les murs. Donc évidemment, c'est spectaculaire, c'est incroyable, etc. Mais du coup, on est dans quelque chose qui est tellement difficile d'accès, finalement, si on n'a pas déjà les prémices d'une explication par rapport à l'invisible. On est dans quelque chose tellement sensationnel. J'étais confrontée auprès de public test à un rejet, mais alors extrêmement fort, ou alors à des réactions du type « c'est du trucage ». Quand c'est trop pour notre mental, et c'est vrai que c'est trop pour notre mental dans nos cultures de nouveau, quand on voit une table qui monte un mur, c'est difficile. Donc en plus, quand on le montre au cinéma, on a beaucoup, beaucoup de mal à ne pas croire que le réalisateur l'a fait appel à des effets spéciaux. Donc voilà, ça c'est toute une part que j'avais filmée, qui a complètement passé à l'as, en me disant peut-être ça vaut la peine de faire tout un documentaire que sur la médiumnité physique. Alors je le ferai pas parce que c'est pas la partie qui m'intéresse le plus, mais c'est vrai que ça devrait faire l'objet d'un film en soi.
Ni la pertinence de certaines informations transmises par la médium, ni l'intensité manifeste de leurs émotions semblent n'avoir valeur de preuve pour les sceptiques. On peut l'interpréter comme une prudence raisonnable ou un refus de voir l'évidence.
La dissonance cognitive, c'est exactement ça, c'est-à-dire rejeter une information qui devient trop scandaleuse et trop difficile à intégrer dans un système de pensée.
D'ailleurs, cette difficulté dont tu parles, elle est mise en lumière par le docteur Charbonnier, qui explique ça sous la forme de dissociation cognitive.
Oui, alors, dissonance cognitive, ça c'est encore autre chose. Ça rejoint un peu le questionnement sur pourquoi on a tellement de mal à y croire. La dissonance cognitive, c'est en fait un système de protection élaboré par notre cerveau, par notre conscience, qui nous permet, quand une information arrive qui est inadmissible par rapport à notre système de croyance, par rapport à nos valeurs, ça nous permet de la rejeter aussi sec et de l'oublier. Donc c'est extrêmement pratique et c'est heureusement que c'est là, quoi. Ça nous protège vraiment et c'est très, très utile de façon à ne pas être chamboulé dans nos valeurs fondamentales. Par contre, alors là où c'est regrettable et que c'est regrettable parce que je pense que ça empêche l'évolution aussi, c'est que la dissonance cognitive, au-delà d'être un système de protection de nos valeurs et de notre être, est aussi un système qui fonctionne très fort en rejet. Je ne peux pas entendre cette chose-là, ça me perturbe trop. Par exemple, un médecin qui a fait 15 ans de médecine, à qui on vient dire « Oui, mais une séance de guérison spirituelle de 20 minutes a suffi à guérir le cancer de madame », c'est intolérable. Enfin, il y a quelque chose où le joint est très difficile à faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rejeter l'information aussi sec et même plus s'y intéresser. Ça, c'est la dissonance cognitive. Et il va oublier qu'on lui a dit ça ou qu'il a observé ça.
Trans, spirit, hallucination psychomotrice, paroles inspirées, transmission de la pensée, communication avec les esprits et délire chronique caractérisent le médium.
Qu'est-ce que toi, tu as appris, Denise, personnellement au contact de Céline et des autres intervenants de ce documentaire ?
Alors, en ce qui concerne la médiumnité, je pense que la chose la plus frappante au contact des médiums, c'est l'aisance qu'ils ont au quotidien à passer d'un monde à l'autre, justement, à rendre encore plus ténues les frontières entre le visible et l'invisible, l'incarné et le désincarné. ou à leur contact, on a vraiment de plus en plus fort le sentiment que les défunts, les guides et tout un tas de monde comme ça sont en permanence tout autour de nous et que finalement il suffirait de changer de fréquence, de mode vibratoire pour les entendre, pour cohabiter avec eux au même titre qu'on cohabite avec les autres humains. Alors je dirais que ça a rendu cette frontière encore plus, plus ténue, plus fragile comme ça. Et la fin de mon film, en fait, j'ai eu beaucoup de mal. Le film se termine par une voix off. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Parce que justement, je me posais cette question. Je me disais, mais après toute cette enquête, après avoir observé ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Puis finalement, je crois que cette voix off reflète bien ma position. Où je dis, mais si on se mettait à y croire, si on se mettait à écouter nos morts, si on se mettait à penser qu'on est ici sur Terre qu'un tout petit moment et qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus large, finalement, est-ce que ça nous permettrait pas de mieux vivre l'instant présent dans plus d'humanité, plus de solidarité et plus de respect?
Au chapitre du médium, j'ai donc dit ceci. Le médium se recrute de préférence chez les malades mentaux, pardon madame, voyants, somnambule, guérisseur, le médium est souvent un sujet hystérique, fruste et suggestible.
Club Bizarre.
Repérage.
Couleur 3.
The sun is low. There are still lots of miles to go. Oh, I can't even remember all the mess we made. But this is how I fade. While the air is getting chill, can you really feel the sound you hear? But I don't care, we have to reach the field beyond that hill. I'm done.
sais pas bien expliquer d'où viennent les infos des guides. Ce que je peux expliquer, c'est ce que j'ai déjà ressenti. C'est qu'eux-mêmes vont pêcher les informations ailleurs. C'est-à-dire certainement plus haut, plus proche du divin, ou plus proche d'une source universelle où il y aurait toutes les informations. Cette source de données universelle, pour moi, j'y mettrais le nom de Dieu. D'autres personnes auraient appelé ça bibliothèque akashique, inconscient collectif. Moi, je trouve que c'est Dieu.
C'est le 1er novembre prochain que sortira le film de la réalisatrice Denise Gillian, Médium d'un monde à l'autre. Un film simple, sans concession, sans trucage. Un film qui joue la carte de l'émotion, de la rencontre et soulève beaucoup de questions.
Est-ce que les guides supérieurs peuvent aujourd'hui manifester leur présence, s'il vous plaît?
Pour aller encore un peu plus loin dans cette exploration des différentes facettes de la médiumnité, la sortie de ce film est accompagnée de la sortie d'un livre aux éditions Favre.
Le film et le livre vivent tout à fait indépendamment l'un de l'autre, mais le livre est complémentaire au film et donne accès en fait à toutes les heures d'interview que j'ai menées pour le film et qui n'ont pas trouvé place dans un 66 minutes. Donc ça permet d'aller plus en profondeur, je dirais, dans ce qui est théorique. Et le film, lui, permet d'aller plus en profondeur dans tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel et du ressenti. La grande différence, je dirais, c'est ça.
Sortie officielle du DVD « Médium d'un monde à l'autre » le 2 décembre prochain. Est-ce qu'il y aura une partie bonus ?
Oui, alors c'est ce que j'adore dans le format des DVD, c'est qu'on peut y mettre plein de bonus. Donc oui, je me suis fait plaisir. Donc dans les bonus, on trouve une transe de Céline, une transe parlée. Alors le médium se met dans un état de conscience modifié qui permet à un guide spirituel, ou un ange ou un archange, enfin chacun là il va de son vocabulaire, de prendre possession en fait physiquement d'une partie du médium, que ce soit ses mains, que ce soit sa voix, de façon à s'exprimer. Donc en transe, il y a des médiums qui font de la peinture, il y en a d'autres qui font de la guérison, et là en l'occurrence, ce que j'ai filmé, c'est une transe parlée. Céline prête ses cordes vocales finalement à quelqu'un qui vient donner des messages pour le public. Donc ça, c'est un des bonus. Un autre bonus, c'est une histoire extraordinaire qui est arrivée au père François Brune avec son frère qui était décédé. Donc je ne vais pas déflorer l'histoire, mais enfin, c'est une histoire tout à fait spectaculaire qu'il raconte très très bien avec beaucoup d'émotions et de grandes précisions quant à la médiumnité. Un autre bonus, c'est le spécialiste en TCI, Christophe Barbet, qui nous donne son point de vue sur comment ça marche au niveau technique, la TCI étant la transcommunication instrumentale, donc l'enregistrement de la voix des morts sur des magnétophones. Et le quatrième bonus, c'est de nouveau un processus mis en place devant la caméra de recherche d'un objet perdu. Donc nouveau défi lancé à Céline, où quelqu'un lui téléphone en disant « j'ai perdu un objet, est-ce que vous êtes capable de me le retrouver ?» Et en fait, Céline a retrouvé l'objet en 2 minutes et demie. Et on observe ça, en fait, sans coupe, sans montage, à l'état brut.
Est-ce que vous m'autorisez d'enlever mon bandeau maintenant ?
Absolument.
Comme ça, j'aurai plaisir de vous rencontrer pour de bon.
Sur le flyer que j'ai sous les yeux, il est écrit « Médium d'un monde à l'autre ». C'est un petit encart publicitaire pour le film. Donc c'est écrit un livre, un film, et puis des soirées médiumniques. C'est quoi ces soirées médiumniques ?
Alors, soirées médiumniques, on va faire l'année prochaine des soirées lors desquelles il y aura projection du film, débat avec Céline autour de la médiumnité et de son expérience, et puis des démonstrations publiques de médiumnité. Ce sont des soirées qui ont pour but de donner à sentir, à expérimenter, à voir ce qu'est la médiumnité sous le plus de facettes possible finalement.
Justement, Suisse romande, la médiumnité, selon toi, c'est un sujet qui intéresse, même si on n'en parle pas tous les jours dans les médias, beaucoup de monde, un large public, ou c'est en fait encore quelque chose de complètement anecdotique, controversé, et qui garde quand même une aura assez péjorative en fait?
Alors, c'est un sujet qui rencontre un engouement populaire extraordinaire. Par contre, il est politiquement très incorrect de dire qu'on fréquente des médiums. Alors ça, c'est assez drôle, quoi. Donc, et c'est une dualité que je rencontre présente dans tous les milieux. Là, ça fait 3 ans que je suis sur le sujet, hein, donc j'en parle. Et dans tous les milieux, je suis confrontée à la même chose. C'est que finalement, tout le monde y va de son histoire de fantôme, de son anecdote. Tout le monde, ou presque, a au moins un jour dans sa vie téléphoné à quelqu'un qui a le secret parce qu'il avait une verrue à faire partir, ou a vu un guérisseur, ou a appelé un médium. Mais on nous le raconte comme ça, sous la table, un peu vite, sans que personne n'entende. Puis au moment où on reprend son rôle social, sa position, et surtout dans les milieux scientifiques, évidemment. Alors là, non, on ne dit pas qu'on y croit.
Donc ça, j'ai été beaucoup, beaucoup confrontée. Puis ça m'a étonnée parce que je ne pensais pas que c'était si tabou. J'ai vraiment découvert qu'il y a un tabou très, très fort autour de la mort. Mais là, alors, je me suis aperçue qu'en plus, il y avait vraiment un tabou autour de la survie de l'âme. Ce n'est pas seulement la mort qui est tabou. C'est aussi l'idée spirituelle qu'on peut être autre chose qu'un cerveau, un cœur et des poumons. Ça, c'est très, très fort. Et c'est regrettable.
Est-il possible de demander au guide supérieur de se manifester aujourd'hui pour cette expérience avec François, Brune, Céline et Thierry, et pour toutes les personnes qui visionneront ce film, afin de nous donner des messages de réconfort et d'enseignement.
Bisous.
This world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out. And I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, cause you don't understand.
On étudie un petit peu la physique quantique, on s'aperçoit qu'on est dans un univers actuellement en dessous de la vitesse de la lumière de 300 000 km par seconde. Si on dépasse cette vitesse-là, on sera dans un univers au-delà de 300 000 km par seconde. Et les mathématiciens nous disent que si on atteint cette vitesse et que si on la dépasse, eh bien on sera dans un univers où le temps n'existera plus, il ne sera plus linéaire, il n'y aura plus de passé, de présent et de futur. Alors, les médiums rejoignent un petit peu cet univers supralumineux lorsqu'ils nous disent qu'ils ont des informations aussi du passé, du présent et du futur. Ils ont des précognitions, des rétrocognitions, ils ont des visualisations, des flashs, ils reçoivent des messages en clairaudience, ils reçoivent des messages en clairvoyance, et ils ont aussi cette faculté télépathique avec des entités qui viennent de se présenter. Alors il y a quand même un parallèle très intéressant à faire par le biais de cette physique quantique.
Club bizarre.
Y a-t-il une vie après la mort ? Pour le prouver, une médium guérisseuse relève le défi de donner des séances de médiumnité en direct devant des caméras à des clients et des scientifiques qui n'y croient pas. Cette médium, c'est Céline Boson-Sommer. Originaire du Jura, Céline vit à présent à Martigny dans le Valais. Dimanche 6 novembre à 18h, rencontre avec Céline qui nous expliquera comment elle a vécu de l'intérieur les coulisses et le tournage du documentaire « Médium d'un monde à l'autre ». Un documentaire à voir dès le 2 novembre prochain au cinéma Bio de Carouge, au City Club de Puy et à Oron-la-Ville. Pour en savoir plus, médium au pluriel -lefilm.com.
Mon rôle à moi, c'est de faire la meilleure connexion possible pour que vous puissiez recevoir vous le meilleur. D'accord ? Si le monde spirituel est là, et puis que vous êtes là, et que moi je suis là, pardon, si eux viennent jusque-là à moi, toute l'énergie qu'ils ont utilisée pour venir jusque-là, c'est ce que vous n'aurez pas. Si moi, par contre, je m'applique à aller vraiment vers eux le maximum, toute l'énergie qu'ils n'auront pas à utiliser pour venir à moi, c'est ce que vous recevrez. C'est comme ça que je conçois mon travail. Mais mon travail à moi, c'est de faire seulement la connexion. Et eux savent de quoi vous avez besoin.
À la réalisation de ce club bizarre, Franck Pourpris. Un club bizarre avec des extraits du documentaire « Médium d'un monde à l'autre ». Réalisation Denise Gillian et Alain Maillard, production PCT Cinéma Télévision. Cette émission est à présent disponible en podcast, couleur3.ch, émission Club Bizarre. La suite, dimanche 6 novembre, 18h, sur Couleur 3.
Une personne qui fait ce genre de pratique doit être déjà ouverte au monde spirituel. Mais je suis certaine que c'est vraiment d'un grand secours pour toutes les personnes qui ont quelqu'un qui est décédé et qui ont besoin d'avoir des nouvelles pour pouvoir continuer leur propre vie.
Bizarre.